Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
De la fabrique et dans la fabrique. Là, on va peut-être davantage rejoindre des questionnements sur justement les territoires en hôtel et pouvoir ici investiguer des objets, notamment des briches qui interrogent donc, la vacance. Mais je vais laisser donc peut-être Axel commencer pour si cela vous convient. Ouais, depuis quoi là, vous avez un peu. Alors, on peut nous voir et puis Nathan à suivre et puis on aura notre petit échange par la
Ok, ben bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien du coup? Ouais. Ok. Alors, moi je suis même pas à Grenoble, je suis à Lyon, donc on est encore en territoire encore plus étendu. Alors du coup, pour le côté présentation, moi je suis tout simplement architecte de formation. Je suis diplômée d'école d'archi de Saint-Étienne, ce qui est un fait assez notoire pour le sujet de mes recherches, qui pourrait être souligné. J'ai travaillé en agence d'architecture pendant environ un an et demi, avant de prendre le chemin de la recherche en 2019. Où j'ai rejoint le laboratoire GERFO à Paris pour suivre en fait un post-master de préparation à la recherche, ce qui m'a permis de questionner, développer, réorienter, repenser, puis faire muter beaucoup mon sujet, donc aussi de mémoire, comme c'est souvent le cas, qui était alors à l'époque tourné plutôt vers la reconversion des friches industrielles. Et donc ça m'a demandé de déconstruire beaucoup de mécanismes de fascination qui entourait l'émergence de ce qu'on appelle les friches culturelles. Et ça m'a permis surtout de m'intéresser au phénomène et au concept de vacances en lui-même, celui plutôt qui va rassembler et enrichi par la philosophie et ses concepts. Donc ce sujet-là me permet en fait de m'affranchir des spécifications typologiques, d'où est issue une certaine approche sectorielle par l'objet, pour aller plutôt vers une appréhension spatio-temporelle des situations par le biais donc, de la qualité des expériences, comme l'a dit Nathalie. Et donc en janvier 2022, je suis entrée en thèse au Cresson sous la direction de Céline Bonico-Donato, qui est philosophe, et puis co-dirigée par Georges-Henri Lafont, qui est un géographe, maître de conférence à l'ENSA Saint-Étienne, avec un contrat doctoral du ministère de la Culture. Donc j'ai un contrat plein et j'enseigne en parallèle à l'école d'archi de Grenoble. Donc comme je l'ai dit, en fait l'une des spécificités de mon travail et son cadre d'action, ce qui le rend aussi un peu complexe, c'est de m'extraire de la question d'une vacance qui va être figée à une typologie d'espace ou d'une fonction particulière d'un objet délaissé. Donc je ne vais pas m'intéresser directement à une friche industrielle ou un rez-de-chaussée commercial ou à un espace tertiaire ou même une friche agricole. L'idée ici, c'est de se départir de toute approche traditionnelle qui est plutôt sectorielle, qu'on va considérer comme nécessaire, mais néanmoins limitante, et qui ne suffit en fait pas, selon nous, à balayer l'entièreté du phénomène de vacances, qui est d'ailleurs plutôt la question de la vacance urbaine, de mon côté. Donc ça permet à la fois de s'écarter de l'approche quantitative qui prédomine, et des intérêts économico-politiques que revêt la question des espaces vacants, comme leur nombre, leur surface, leur propriété, le coût d'entretien, la perte, mais sans pour autant les nier, et puis d'ouvrir la problématique à une multitude de terrains, finalement qui pourraient s'apparenter à depuis le trajet, depuis mon logement jusqu'à, je ne sais pas, la rue où il y a un peu des locaux vacants, en passant par finalement les espaces en friche à l'orée de la ville, et puis pour arriver aux terrains qui ont été officiellement choisis pour la thèse. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la vacance, elle nous entoure, elle nous submerge parfois, on vit parmi ces objets, et les vides vont irriguer nos paysages urbains et ruraux. À cela, on n'y fait pas toujours attention. Donc il y aurait des mécanismes d'habituation qui se mettent en œuvre, si bien qu'on ne les voit plus vraiment, alors que pourtant d'autres frappent encore. Donc ça dépend aussi du contexte dans lequel la vacance émerge, on va dire les situations urbaines, même si ça n'a rien de systématique. Donc en fait, dans la thèse, il y a d'un côté une multitude qui appartient à celle du quotidien, qui est non négligeable, et où presque on pourrait faire un récit d'expérience quotidienne à l'image de ce que Pérec a fait. Mais qui à quoi du coup il s'agirait peut-être de donner forme au sein de mon travail, et puis de l'autre les deux terrains envisagés dans le cadre de la thèse qui sont à Saint-Étienne et Lyon, et puis j'avais envisagé un terrain à Grenoble, mais ça reste encore un peu en attente à ce jour. Donc à Saint-Étienne, je travaille surtout avec une association qui s'appelle le Créfa de Loire, dans un quartier qui s'appelle le quartier Tarentaise-Beaubrun, où ils ont notamment un projet qui porte sur la plus ancienne ville rue commerçante de la ville, qui s'appelle d'ailleurs la rue de la ville, et qui est marquée par une forte vacance en rez-de-chaussée. L'association travaille aussi sur l'élaboration d'une sorte de tiers-lieu, et en fait, elle a réussi à accéder à sa propriété, qui m'a un peu fait tiquer, et en fait, ils m'ont dit que la seule manière de le sortir des logiques de marché, c'était de répondre à ces logiques de marché, pour le sortir justement de ces logiques-là. Donc je reconsidère un peu actuellement ce terrain-là, et finalement, le terrain stéphanois se situe peut-être en fait moins sur un lieu précis, sur un territoire spatialisé, que sur plutôt une appréhension du phénomène en termes d'atmosphère et de représentation, parce que le sentiment d'abandon dans cette ville est fort, et il peut être considéré justement à plusieurs niveaux. Voilà, donc d'un autre côté, j'investigue un terrain lyonnais qui porte le nom des Ateliers Brillants. En fait, il s'agit d'une ancienne usine de pièces automobiles qui s'appelait Soliem à Saint-Priest, qui fait 5,25 hectares, donc qui sont laissés vides depuis 2018. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est un tout petit peu moins que la superficie de la place Bellecour, donc c'est assez grand. Donc tout n'est pas occupé par des bâtiments, il y a aussi énormément d'espaces vides autour, et elle fait depuis un an et demi à peu près l'objet d'une occupation temporaire partielle, une durée de 6 ans, ce qui est particulièrement long pour une occupation temporaire. Et partielle parce qu'en fait, il y a toute une partie qui est laissée en l'état pour des raisons sanitaires d'amiante, et donc elle est laissée en situation de vacances partielles, mais tout ça dépend évidemment de la définition qu'on va donner à la vacance. Donc il y a environ 80 occupants et occupantes actuellement, et à l'inverse de nombreux projets d'occupation transitoire, l'avenir du lieu est encore assez inconnu, c'est-à-dire que la prétention d'un éventuel projet urbain reste actuellement en suspens, et il s'agit plutôt d'une occupation temporaire, donc dont le caractère transitoire va rester lui à déterminer, et de façon très pratique, moi j'y suis en immersion, donc c'est-à-dire que j'ai le statut formel d'occupante. Donc je loue un petit bureau de 6 mètres carrés au deuxième étage d'un ancien bâtiment de bureau où j'ai la chance d'être spectatrice d'une forêt de chêne à perte de vue. Et cette situation fait surgir en fait dans mes recherches un certain nombre de questionnements, puisque mes recherches portent sur une certaine théorisation du vide et de ses bienfaits. Donc par exemple, comment on va enquêter sur le vide et son statut lorsque celui-ci est occupé par l'être humain? Comment on considère la vacance lorsque celle-ci fait l'objet d'une appropriation officielle? Comment appréhender et situer la recherche face à l'institutionnalisation de l'opération et à son potentiel avenir en tant que projet urbain? Tout comme la normalisation des pratiques qui s'y trouvent. Et moi, je me demande surtout, est-ce que la vacance, ça peut être un sentiment qui persiste au-delà d'une occupation humaine? Ou est-ce que c'est juste une définition objective, tributaire d'un certain impératif d'inoccupation? Voilà, plein de questions de ce type-là. Malgré ça, dans le cadre de la thématique qui nous réunit aujourd'hui, ce terrain donc des Ateliers Brillants, par exemple, me paraît être particulièrement intéressant pour le caractère ordinaire en fait, des pratiques qui prennent place et qui s'exercent dans et avec, finalement, le côté extraordinaire du lieu. C'est-à-dire qu'on est presque dans un double rapport du co et du dans, du contenant et du contenu, et dont on pourra peut-être discuter un peu plus tard. Et j'ai identifié en fait sur cette question de l'ordinaire trois niveaux, on va dire. C'est que les lieux en situation de vacances ont cela d'assez passionnant, c'est qu'ils relèvent à la fois de l'ordre de l'ordinaire et de celui de l'extraordinaire. Il paraît assez compliqué de défaire les deux dans mon approche. Donc, il y a une idée de l'objet en lui-même, c'est-à-dire que dans la grande famille des espaces vacants, il y a certains lieux qui se situent plutôt dans un a priori matériel de l'ordinaire, on va dire un local commercial vacant, des logements, des dents creuses, même des friches agricoles, pendant que d'autres vont être rattachés plutôt à un ordre de l'extraordinaire, les grandes friches industrielles, les bâtiments publics abandonnés. Et on va supposer que cette différenciation, c'est le résultat d'un rapport peut-être visuel de l'habitude relativement à des typologies, donc de façon très factuelle, on expérimente davantage quotidiennement un local commercial qu'un hectare de friche. Mais dans le même temps, ou peut-être successivement, le fait qu'ils vont contraster avec les espaces habituellement pratiqués et appropriés, de par une certaine esthétique inhabituelle ou un sentiment négatif à leur égard, va suffire à les inscrire dans le régime de l'extraordinaire. Voilà, donc c'est plutôt orienter la question vers l'expérience d'un lieu ordinaire et extraordinaire et le trouble finalement généré par cette expérience. Dans un deuxième temps, il y aurait plutôt la question d'un ordinaire urbain. Donc le premier, c'est l'objet, ensuite urbain. La vacance, finalement, elle a toujours fait partie de l'ordinaire urbain et rural. Dans les disciplines aménagistes, elle va porter le dur nom de vacances conjoncturelles, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme nécessaire pour assurer les mouvements urbains. Et elle diffère un peu de la question de la jachère dans le monde rural par la forme, puisque la jachère, c'est celle qui protège la terre de la friche, mais peut-être rapprochée dans sa fonction. Et donc, alors que le vide qui résulte finalement du non-fonctionnel et de l'abandon fonctionnel d'un lieu va les placer dans un régime d'exceptionnalité, ce vide qui serait conjoncturel semble finalement toléré sous l'égide d'un ordinaire des rythmes urbains. Donc c'est-à-dire que la permission rythmique va le placer du côté d'un ordinaire dans une certaine banalité. Donc dès la fin des années 90, il y a plusieurs recherches sur le sujet qui font état de cette banalité, comme Claude Chaline dans la fin des années 90, et qui montre que la friche va appartenir à une dynamique normale, voire banale de la ville et de sa régularisation. Elle s'est toujours construite avec des changements de fonction d'espace. Et le bâti et la fonction sont deux entités différentes dont les rythmes ne vont pas toujours être synchronisés, ce qui explique des décalages, des évolutions, des changements de fonction plus ou moins brutaux. Donc là, je cite une récente doctorante, Sarah Beau. Et donc la vacance va devenir elle problématique lorsqu'elle sort de ce cercle usage-abandon de moins de 3 ans, qui est un point de basculement où elle va devenir structurelle en fait. Et par effet, elle sortirait donc du cycle ordinaire qui résulte d'une normalité rythmique, comme je l'ai appelé, mais toute décrétée soit-elle, puisque ces 3 ans, ils ont été définis et instaurés par les sphères techniques et opérationnelles de la production urbaine. On pourrait mettre en question cela. Donc on côtoie la vacance dans notre quotidien, sans parfois vraiment s'en rendre compte, et on en fait une expérience quotidienne au sens du philosophe pragmatiste John Dewey. Et puis le troisième point, du coup, c'est la question de dépasser l'ordinaire, pardon, où là je me suis demandé si finalement celui-là ne se situerait pas plutôt dans un infra-ordinaire, donc dans la mesure où les lieux se situent en dehors et en deçà du champ de l'ordinaire. C'est-à-dire que du fait de leur abandon, les espaces vacants vont rester en marge des pratiques sociales urbaines, malgré leur caractère disponible, et de ce fait, ils n'appartiennent pas tout à fait à l'ordre de l'habituel. Mais ce caractère infraordinaire, il va osciller entre des pratiques d'appropriation et des représentations dynamiques. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir les formes actuelles d'appropriation et les récentes initiatives plutôt technocratiques pour ces espaces, comme le plan zéro artificialisation nette, les causes écologiques, les villes en déprise, qui ont tendance à les valoriser et à engendrer un placement de leur position plutôt marginale vers des approches métacotidiennes, mais je ne sais pas trop si c'est le bon mot. Et donc on développe des nouvelles idées qui vont frôler le cadre ordinaire des pratiques urbaines. Par exemple, aux ateliers brillants, on travaille, puisque c'est un lieu d'économie sociale et solidaire, tout en étant vecteur de nouvelles formes de socialisation, et qui vont mener, du coup, pour la plupart d'ailleurs, à une expérimentation de nouvelles formes de participation politique, qui persiste, donc esthétique et une certaine philosophie, qui sont rendues, par exemple, par des formes d'expression artistique. La photographie reste un excellent moyen, l'exploration urbaine, ou ce qu'on appelle l'urbex, à l'écran, on a des séries et des films d'anticipation. Dans les romans d'anticipation, je pense au roman écoféministe de Wendy Delorme, donc le lieu abandonné va rester un recours assez efficace pour faire passer certains messages qui sont interprétés de façon intuitive par nous toutes et tous. Voilà, et donc en fait, on pourrait vraiment se questionner sur les façons dont ce symbolisme parvient à énerver nous-mêmes, nos pratiques et nos représentations quotidiennes, et c'est ce que j'essaye un peu aussi de voir dans les terrains, J'ai pas de récit précisément d'enquête. Cependant, pour la suite de cette introduction que je viens de faire, dans les deux terrains que j'investigue à Saint-Priest, le côté matériel du lieu, donc sa forme et sa fonction passée, vont vraiment plutôt s'apparenter à l'extraordinaire. On n'a pas forcément l'habitude de côtoyer des espaces comme ça au quotidien. Cependant, vraiment, la banalisation des pratiques qui se développent depuis l'occupation temporaire tend à les faire entrer dans l'ordinaire. C'est-à-dire que cet aspect-là dépend cependant quand même de la position occupée. Pour les occupants et les occupantes, il y a vraiment une idée quotidienne de la pratique, mais le lieu reste quand même ressenti comme énigmatique. Et puis, les visiteurs, visiteuses, habitants restent ont quand même un mouvement assez distant et mesuré, et du coup font bien plus appel à ce symbolisme dont j'ai parlé, esthétique. Et je me demande si la perception de l'espace, la temporalité, justement, est-ce que ça induit un certain nombre de lignes vécues et ressenties, tout dans le même temps, comme étant un écrin plutôt de possibilités. Donc il y a ces deux jeux-là qui se jouent, qui cohabitent. Et puis, de l'autre côté, à Saint-Étienne, c'est plutôt pour la question, par exemple, des locaux commerciaux vacants, c'est plutôt un lieu finalement assez ordinaire qui, lorsqu'il va être en situation de vacances, va donner à son expérience une dimension extraordinaire, qui est issue de la situation finalement assez marginale par rapport à l'expérience quotidienne. On a un sentiment d'abandon, un état de délabrement qui contraste avec les environnements quotidiens de notre logement ou tout autre local, des odeurs, un imaginaire et un référentiel différent, des mésusages. Mais cet abandon peu ordinaire fait cependant appel à des pratiques infraordinaires, c'est-à-dire que par exemple, j'ai expérimenté le fait d'avoir une pancarte et de demander aux gens ce qu'ils feraient des lieux inoccupés de cette ville. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont répondu, on en fait des jardins. Donc un local commercial transformé en jardin. Et voilà, ça me pose un peu question. Donc finalement, ces oscillations entre ordinaire et extraordinaire sont quand même relatives aux situations urbaines, comme je le disais, puisque le local vacant lyonnais a assez peu de risques d'être perçu et considéré de la même manière qu'un local vacant stéphanois. C'est-à-dire que celui-ci va quand même rester le symptôme physique d'une situation assez non ordinaire, vécue et considérée comme de la décroissance urbaine. Donc le caractère assez extraordinaire du déclin urbain fait finalement de tout lieu vacant le symptôme de cet extraordinaire dans cette ville. Voilà, donc finalement, pour conclure, je dirais, l'appréhension de la vacance va rester assez corrélative à une multiplicité de facteurs sociaux, matériels ou symboliques qui va rendre assez complexe son appartenance prédéfinie à un ordre ou à l'autre, donc à l'ordre de l'ordinaire ou de l'extraordinaire. Et ça nous amène plutôt à penser qu'il y aurait une forme finalement presque de cohabitation matériel et symbolique, de l'ordre de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Voilà, je laisse la parole.
Merci Axel. On passe la parole sans parler à Nathan avant de poursuivre les échanges. Quoi de
dit ? Évidemment, il fallait la mettre comme ça.
Ah oui, je l'ai vu.
C'est fait. Alors, Nathan Brenu, du coup, moi je viens de licence d'histoire, puis d'un master à l'UHESS en recherche comparative en histoire, anthropologie et sociologie, durant lequel j'étudiais la caméra à Naples. Puis j'ai fait une thèse de doctorat sur l'histoire des marchés publics et d'aménagement portuaire sur les côtes françaises et italiennes entre 18e et 19e siècle. Je ne peux que sourire sur cette notion d'avant-projet que l'on vérifie dans les archives, dans le support d'échanges, notamment au XIXe siècle, entre les divers pouvoirs des projets, et qui généralement termine par fidéliser avec les échanges et les marques. Je me suis intéressé par la suite à l'histoire des ruines, aux édifices désaffectés, et ce qu'ils peuvent nous dire de l'histoire de l'aménagement du territoire, en parallèle à une histoire environnementale de l'architecture et de l'urbain, m'intéressant notamment aux infrastructures de la production industrielle. Je suis donc aujourd'hui MCF associé en HCA à l'ELSA Nantes et actuellement je reviens de Milan où je suis visiteur de recherche au Polytechnique de Milan pour justement développer une histoire environnementale appliquée aux études urbaines et à l'architecture. Dernièrement, on vient de sortir un chapitre que j'ai coécrit avec Gloria Pessina sur la question de la raffinerie abandonnée de Porto Torres, sur, du coup, notre histoire environnementale et études urbaines, raffinerie qui fait l'objet aujourd'hui de divers projets de greenwashing, projets tout aussi désastreux d'un point de vue environnemental que l'ancien. Un autre article assez proche est en cours de construction, toujours coécrit avec Gloria Pessina, cette fois-ci sur le cas de la raffinerie Totana dans l'Interland Sarde, elle aussi abandonnée. Il y sera question des métamorphoses environnementales, paysagères et sociales entraînées par ce projet catastrophique. J'écris par ailleurs divers articles actuellement en travail hein, avec Sofia Nannini sur l'histoire architecturale et environnementale des infrastructures de l'élevage intensif de porc entre Bretagne et Piana Padana. Un autre projet en cours de réalisation, c'est l'histoire d'un ruisseau, mais non pas l'histoire des érucrues d'un ruisseau, mais l'histoire d'un ruisseau cette fois-ci contaminé, le Rio Negraro, assez ravalé, Scrivia. En somme, tous mes terrains de recherche, ce qu'il y a de plus ordinaire. Notre vie quotidienne, le pétrole, la pollution, la viande sous emballage, au supermarché, mais en traitant ces questions en amont, d'un point de vue matériel, de ce qui les rend possible du point de vue des infrastructures qui servent cette production. L'aménagement du territoire est ainsi envisagé sous l'angle non seulement du désastre environnemental qui est devenu notre exceptionnel normal, pour détourner une expression d'Eduardo Grandi, ancien tenant de la microstoria italienne, mais également sous l'angle des métamorphoses paysagères et sociales. Prenons l'histoire du ruisseau contaminé Negraro à Serra Valle Scrivia. Mon protocole d'enquête comprend divers entretiens avec des habitants assez âgés pour avoir connu ce ruisseau, pour l'avoir fréquenté, un peu finalement comme Alexandre Dumas-fils côtoyait son jardin. À l'époque, avant les infrastructures construites aux alentours de ce ruisseau à partir des années 40, notamment pour traiter des déchets toxiques, et en 1983 avec l'entreprise Ecolibarna, qui va même avoir l'autorisation de traiter des déchets toxiques spéciaux, tant liquides que solides, et même si 2 ans plus tard la région révoque l'autorisation d'Ecolibarna, nous dirons que le mal est fait, le ruisseau était utilisé comme une décharge, et d'ailleurs on découvre de ci, de là, sur les 20 km aux alentours, quelques tonneaux, apparemment il y en aurait 2500 remplis de déchets toxiques, que certains ont même formé des collines recouvertes d'herbes dernièrement. Aux abords d'une balade, si vous voyez un tonneau en haut du Scrivia, prévenez les autorités. Et par ailleurs, voilà donc depuis le complexe industriel toxique abandonné et quelques tentatives de réparation ont été faites, mais elles sont encore au point mort pour des raisons notamment financières. En vérité, on ne sait pas, il y a eu des enveloppes de financement, mais on ne sait pas toujours où elles sont passées. Mais l'histoire de ce ruisseau ne s'est pas arrêtée là, car en amont du ruisseau, en 2000, a été construite la Serra Valle Designer Outlet, donc une zone commerciale réservée aux grandes marques, 50 000 m² de magasins, 250 magasins en fait, et un tel aménagement a impliqué une artificialisation des sols tout à fait conséquente. Problème, quand il pleut, le ruisseau se remplit particulièrement, drainant encore plus de déchets toxiques, mais le ruisseau est un affluent du Scrivia qui descend jusque dans la mer. Le Scrivia est, par conséquent, pollue les nappes phréatiques au point qu'aujourd'hui, ce qui serait finalement envisagé dans cette histoire de ruisseau, c'est sa mise à mort, après l'avoir empoisonné. Le comblement est ainsi une solution envisagée, fin de l'histoire d'un ruisseau, en perspective. Cela semble extraordinaire, mais pas du tout. C'est une histoire parmi tant d'autres, c'était juste l'histoire d'un ruisseau tout petit et tout à fait ordinaire. Peut-être qu'ordinairement, il fut un temps où les gens pouvaient y laver leur linge, qui sait, se tremper les pieds, c'était ordinaire également à l'époque. Mais nous n'avons ensuite que des transformations d'un paysage, du passage d'un ordinaire à un autre. Par ailleurs, le fait qu'un complexe industriel aussi dangereux soit vacant, à l'abandon, n'a rien d'extraordinaire non plus. Hein. Il y a, comme le disait Axel avant, un grand nombre de lieux vacants, une submersion de lieux vacants dans notre monde par une production massive de ces lieux vacants, une production massive de une opération de construction massive, lieux propices à des activités telles que l'urbex ou au tournage de films. Hein. Il y a carrément des clips vidéo par des associations italiennes pour louer ces films
dans l'espoir qu'un producteur américain puisse s'y emparer, au même titre qu'un village censé être resté authentique ou d'une plage présentée comme paradisiaque. Donc, ces lieux vacants qui font même partie de l'imaginaire au point d'être devenus des clichés topiques. Donc, quelle heure est-il ? Ce que j'essaie de faire, c'est une sorte de géographie historique de l'ordinaire industriel, l'ordinaire de la fabrique du territoire industriel, de la fabrique industrielle du territoire. Pour ma part, j'essaie de m'intéresser à l'histoire sociale du paysage, pour ainsi dire, ainsi qu'à l'histoire paysagère du social. Car si le paysage est une construction sociale, ce n'est pas qu'une vision. Mais il est aussi, tel que nous l'entendons, un lieu, une matérialité, il y a une rugosité du paysage pour reprendre la métaphore de la géographe Roberta Chevasco. Et ces transformations changent à leur tour les relations sociales. L'implantation d'une raffinerie, par exemple, dans l'Interland Sarde, à Otana, n'a pas seulement été destruction de champs, d'arbres, de ressources végétales, de sentiers, elle a été un nouveau paysage et elle a porté une transformation des liens sociaux entre les habitants d'Otana et des alentours, déjà, ne serait-ce que par l'introduction du salariat. D'anciennes pratiques se sont perdues, comme les pratiques de Middleton et de Paderille, les rotations de terres et de troupeaux gérées en commun, encore gérées en commun malgré les attaques que la Sardaigne a connues contre les communs depuis le XVIIIe siècle. Au profit d'un nouveau rapport tant à l'espace que dans la communauté, à l'époque, le géographe Maurice Lelanoux aurait dit que l'introduction du lave-linge ou de la télévision allait provoquer une émigration quand il n'y aurait plus de travail. Ces transformations, je les pose sous fond de questions environnementales, considérant que la question environnementale relève fondamentalement de l'anthropologie historique, donc de l'étude des métamorphoses de nos territoires ordinaires et des manières d'y vivre et de les transformer. C'est ce qui s'inscrirait d'une certaine manière comme un spatial dance, le spatial turn, mais le spatial turn plus tel qu'il est envisagé par le micro-historien, même si on n'appelle plus ça micro-histoire maintenant dans les quadern historici, mais Angelo Torre, que par le géographe Denis Cosgrove. Actuellement, ce que j'essaie de faire, donc, c'est de concilier l'approche critique globale telle qu'elle se pratique dans l'historiographie française sur la question environnementale, pourra dire représentée aujourd'hui par un Jean-Baptiste Fressoz, un Christophe Bonneuil, une Geneviève Massard-Guibault, à la liste à laquelle je rajouterai quand même avec Alice Ingold, et qui a une approche un peu différente, que je dirais quand même plus complexe d'ailleurs, même, et de la concilier avec les apports de la micro-historia italienne, de l'histoire locale italienne. Il faut rappeler que les Quaderni Storici comportaient déjà des articles prometteurs sur l'histoire environnementale dans les années 70-80, largement ignorés par l'historiographie française successive, surtout pour une raison tout à fait linguistique. Je pense qu'en fait, les tenants de l'historiographie successive française ne parlent pas l'italien et donc se sont intéressés à ce qui se passait du côté des États-Unis. Mais on peut citer ensuite que l'approche paysagère du Autour des Quaderni Storici a été également particulièrement développée par le géographe notamment Massimo Quaglini ou par le pionnier de l'écologie historique comme Diego Moreno. L'objectif est donc d'écrire une histoire particulièrement localisée mais bien connectée à l'histoire globale, sortant de l'impasse d'un vieux dualisme micro-macro, une histoire faite littéralement au ras du sol, à petite échelle, à taille humaine, dirait l'anthropologue Alban Bensa, mais qui ne cesse d'interroger notre temps présent. Nous pourrions dire une histoire non pas seulement au ras du sol, pour reprendre l'expression de Giovanni Levi, qui lui a été traduit en France, mais une histoire que je dirais à même le sol, traitant de nos paysages et territoires ordinaires, de nos rapports à cela. Et je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes ou... Ouais, c'est ça. Cette perspective s'inscrit dans une volonté d'établir une nouvelle critique de la vie quotidienne, considérant ces lieux de réalisation ou de déréalisation, visant à construire une histoire environnementale, comme je le disais au début, appliquée à l'architecture et à l'aménagement du territoire, dans la perspective même d'une transformation possible de l'ordinaire de l'héritage industriel. On pourrait dire au moins une histoire environnementale appliquée aux études urbaines, et comme ça, laissant ensuite aux tenants de ce champ d'études se saisir potentiellement de celle-ci pour tenter d'interférer avec les politiques d'aménagements urbains, de transformer nos territoires ordinaires, ce pourquoi ils sont bien mieux armés que les historiens. Il faut rappeler que le géographe Massimo Poiini, mais qui était autour de Quaderni Storici, donc qui faisait pas mal d'histoires, rêvait d'une histoire environnementale et paysagère appliquée à l'aménagement du territoire. Et je discutais dernièrement avec le nouveau directeur des Quaderni Storici, qui est Vittorio Tigrino, et qui me racontait comment son immense projet avait en fait juste terminé dans un tiroir, et qu'en fait tout le monde s'en fichait. Donc j'espère que les tenants du champ des études urbaines auront plus de succès que les historiens dans ce qui pourrait se révéler être de la recherche-action. Que ce soit pour le ruisseau Negraro ou pour la raffinerie abandonnée d'Otana, il n'y a pas de réversibilité territoriale au sens d'un retour en arrière. Les transformations opérées sont entrées dans l'ordinaire, conformes au nouvel ordre des choses, à la normalité actuelle. C'est donc bien un processus d'irréversibilité territoriale qui met à mort le ruisseau Negraro. Il n'y a guère de résilience pour un ruisseau qu'on a empoisonné avant de l'assassiner, au nom du bien commun. Reste à savoir, maintenant, ce qu'on fait d'un tel constat. Selon moi, une histoire environnementale appliquée pourrait permettre d'opérer des choix d'aménagement qui prennent en compte le parcours fait, les erreurs faites, et d'insister sur celles-ci, notamment par une mise en évidence, une attention aux détails qui ont survécu. Des détails, un arbre qui a survécu au milieu est en fait une source historique. C'est en fait un détail qui mérite peut-être d'être sauvé, ne serait-ce que pour avoir encore une lecture historique du territoire. Donc, sauver ce qui reste à sauver, sans chercher seulement à gérer les nuisances ou à mettre en cage de verre des bouts de nature réifiés et monumentalisés, mais conserver quelques couches historiques, notamment les pires, mais en s'inspirant de ce que disait un Camillo Boito à la fin du XIXe siècle pour l'architecture, laissant apparaître la différenciation des couches, permettre une lecture historique de l'espace. C'est une forme de conservation qui n'est pas conservatrice, du moins pas au sens ordinaire qu'on attribue à ce terme dans un certain jargon idéologique qui opposerait le progressisme au conservatisme, quelque chose d'assez vieux maintenant. Mais d'une certaine manière, je dirais avec Gunther Anders qu'il faut chercher à faire en sorte qu'il reste un monde pour qu'on puisse le changer. En termes d'aménagement du territoire, on peut se demander combien de choses ont été détruites par la construction du grand centre commercial de Serravalle-Scrivia ou par le centre de traitement de déchets toxiques. Et si l'on veut procéder à une lecture historique de l'espace dans un contexte d'irréversibilité territoriale, alors on doit s'adonner à une forme d'archéologie de l'ancien ordinaire, archéologie dont les moyens de l'enquête peuvent être les suivants. Bien évidemment, recherche archivistique, en considérant que l'archive n'est pas une preuve en soi, ne donne pas l'administration de la preuve, mais la production d'archives en tant que telle, du document, est déjà une source à analyser, à étudier. Les archives sont la mémoire de l'État, écrivait Novalis à la fin du XVIIIe siècle, peut-être sans être aussi extrême, on pourra dire que cartographier, c'est déjà expliciter un certain pouvoir, tout comme l'accord d'un permis de construire illustre une des façons par lesquelles on produit le territoire. Et ensuite par une archéologie qui passerait par des entretiens oraux avec des personnes assez âgées pour avoir connu ce qu'il y avait dans le ruisseau, est-ce qu'il y avait l'arbre, est-ce qu'il y avait des buis, est-ce qu'il y avait un chemin, est-ce qu'il y avait une ferme, est-ce qu'il y avait une colline, est-ce qu'il y avait une clairière avant la raffinerie d'Otana. Et aussi, sous prétexte de questions paysagères, qu'est-ce qui a changé socialement? Est-ce que les rapports sociaux ont changé avec cette transformation paysagère? Et enfin, une histoire à même le sol implique une observation in situ et donc d'aller sur les lieux pour essayer d'en toucher la rugosité historique. Et la rugosité historique, ce ne sont pas seulement les arbres, mais ce sont aussi les tonneaux abandonnés, ce sont aussi les ruines industrielles, les objets vacants qui nous permettent d'analyser les métamorphoses successives de ces territoires ordinaires. Désolé, j'ai peut-être été un peu long.
Merci d'avoir pris le temps. Peut-être revenir un petit peu dans la continuité aussi de ce que tu évoquais, Nathan, sur finalement comment cette archéologie, cette micro-histoire locale, tu peux l'aborder à travers travail archivistique, d'entretien, d'observation in situ. Enfin, peut-être en miroir, peut-être que accepte de te demander peut-être un petit peu finalement quel matériau tu mets au travail, ou enfin comment tu parlais de cette méthode, enfin de l'usage d'une pancarte à un moment de ce travail voilà auprès des habitants, ou peut-être quelle méthode finalement davantage tu mobilises en fait, et quel matériau finalement cet ordinaire que vous, ou ces territoires ordinaires vous amène aussi peut-être à travailler in fine. Et je ne sais pas si Nathalie...
Tu as des questions ?
Oui, j'avais aussi cette question sur les matériaux, et j'en ai peut-être une sur les imaginaires de ces territoires, parce que j'ai l'impression que vous avez une vision assez différente, Nathan et Axel. Une vision peut-être un peu... En tout cas, Axel, tu as parlé de fascination, enfin que tu avais déconstruit cette fascination, donc d'où vient cette fascination finalement ? Et Nathan a une vision peut-être un peu plus sombre de ce qu'on fait, de comment on agit sur nos territoires par ces aménagements. Et donc voilà, je voulais un peu vous entendre là-dessus. Et puis, qu'est-ce que je m'étais noté ? C'était aussi sur cette question des méthodes d'enquête et des positionnements que vous adoptiez. Enfin, notamment Axel, quand tu dis que tu es immergé dans le lieu, qu'est-ce que tu y fais ? Est-ce que tu observes ? Est-ce que tu discutes ? Est-ce que, comment tu travailles aussi ? Et puis après, j'avais des choses sur des questionnements sur l'expérience quotidienne ordinaire que tu mentionnais, Axel. Et voilà, parce que tu as beaucoup fait le lien entre ordinaire, extraordinaire. Et puis en fait, j'avais ces oscillations étaient. J'aurais voulu en savoir un peu plus, mais voilà, comprendre pourquoi tes terrains, il y en a un qui fonctionne dans un sens et l'autre dans l'autre sens, je suis pas très sûre d'avoir bien compris. Les petites questions subsidiaires. Mais après, je pense qu'on pourra ouvrir peut-être. Aux personnes présentes virtuellement ou dans la salle derrière toi pour ne pas monopoliser non plus la parole. On va peut-être vous laisser répondre déjà à ces questions si vous voulez bien.
Axel peut commencer.
Axel,
peut-être.
Ouais.
Axel.
Oui,
vas-y, Axel.
Alors il y a plein de choses pour les... Pour la question de méthode, j'avais testé des choses en fait l'année dernière à Saint-Étienne sur le terrain où je voulais aller à la rencontre des habitants et des habitantes, puisque je me posais déjà la grande question de la représentation de ces objets-là, de ces phénomènes de vacances qu'on perçoit négativement, finalement, comment les habitants et les habitantes en parlent. Et puis j'étais venue avec des questions très précises où en fait j'utilisais le mot de vacant, espace vacant, la vacance. Et en fait personne ne comprenait rien de ce que je disais, parce que les personnes ne les qualifient pas comme ça. Parler de vacances, c'est pas ordinaire, comme on dit. Et donc finalement j'ai dû changer un peu mes questions et j'ai fini par faire un peu la femme sandwich avec mon carton et aller juste demander aux gens qu'est-ce que vous feriez avec de ces locaux inoccupés dans la ville. Et du coup, local inoccupé, parler un petit peu plus. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que tout le monde avait une idée là-dessus, alors que j'ai rencontré des gens qui me disaient qu'ils ne voyaient même pas ces lieux-là. Donc je me dis, finalement, ils les voient quand même d'une certaine manière, et il y a un petit imaginaire qui se met en place. C'est là où il y en a qui m'ont dit qu'ils en feraient des jardins, des lieux de rencontre, surtout qu'ils accueilleraient des SDF ou des personnes comme ça en transit. Donc finalement, la méthode, elle se construit petit à petit. J'avais d'habitude, prévu de faire plutôt des enquêtes sensibles, qualitatives, par aussi le parcours commenté. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne méthode, parce que je travaille quand même sur... finalement, même si je ne travaille pas directement sur des objets, je travaille quand même sur un objet qui est différent de celui juste d'un espace public ou de la rue en général. Et finalement, dans les parcours commentés que j'ai faits, absolument personne ne me parlait des espaces vacants. Donc ça devenait un peu compliqué. Alors que pour moi, j'étais persuadée que c'était éminemment frappant dans les rues, par exemple stéphanoises. Donc ça remet un peu en question ma méthode et je vais peut-être plutôt m'orienter sur des entretiens semi-directifs. Et puis aussi des méthodes peut-être non langagières. J'avais envie d'initier des méthodes plutôt par le dessin parce que finalement parler de ces phénomènes-là, c'est pas inné et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. Donc j'avais dans l'idée peut-être de mettre en place quelque chose au milieu de la rue pour permettre aux gens de dessiner ce qui se faisait comme représentation de ces espaces-là. Voilà, donc tout ça c'est en travail. Pour l'immersion, effectivement, j'ai mon lieu de travail, donc je le vis quotidiennement. Et puis je discute, il y a les pauses déjeuner, il y a les réunions du lieu parce que du coup on organise collectivement le lieu. Et ça me permet de capter des petits moments. Je suis quand même identifiée comme la chercheuse parce que les gens ne comprennent pas trop ce que je fais là étant donné que c'est tout des entrepreneurs. Donc je me rends compte qu'il y a un petit fossé entre nos pratiques. Ils ont, je pense, l'impression que je le fais bien. Et donc du coup, moi ça me permet de leur expliquer aussi. Et donc est née un peu aussi l'idée d'aller proposer en fait de peut-être mettre en place des moments pour réfléchir sur ce qui se passe en termes existentiels dans ce lieu-là et que ce n'est pas uniquement des pratiques juste de travail quotidienne. Parce que comme j'ai dit, tout le monde se rend compte qu'ils sont dans un espace particulier. Il y a plein d'espaces qui ne sont pas ouverts, qui sont apparemment, il y a un sous-sol. Ils se rendent compte qu'ils vivent une expérience particulière, même s'il y a des activités normées, mais ils ne mettent pas beaucoup de mots dessus. Donc voilà, moi j'ai l'impression que mon travail, c'est aussi de créer un pont entre la recherche et entre ce qui se passe donc de façon expérientielle dans ce lieu-là. Donc c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Voilà. Et donc là aussi des entretiens semi-directifs. Donc ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a tout le côté donc théorique qui mobilise en fait les préceptes philosophiques. Je me base beaucoup sur la question de l'expérience quotidienne située des lieux ordinaires, l'expérience d'un lieu ordinaire du philosophe pragmatiste John Dewey, où il travaille sur une approche de l'échange basée sur en fait, la considération que l'existence, donc, je le cite, se déroule dans un environnement, pas seulement dans, mais aussi à cause de lui, par le biais de ses interactions avec lui. Moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment les lieux en situation de vacances nous impactent et comment, en retour, nous impactons ces lieux-là. Pour être plutôt dans une idée de coexistence, de cohabitation, plutôt que chacun de notre côté. Et finalement, dans l'expérience, il s'agirait de faire finalement toute la place justement au co. C'est des échanges qui sont très intimes avec nos environnements, qui ne sont pas externes. Et ça pose la question de faire l'expérience, être affecté dans l'immédiateté du contact, comme le disait Madine. Et c'est comment ces lieux-là vont nous affecter, nous, et de quelle manière nous sommes affectés par l'indétermination qu'ils provoquent et qui caractérise la vacance. Donc finalement, c'est comment on se laisse toucher par l'indétermination et comment nous, en face, on va s'ajuster à ce qui justement déstabilise. Donc dans la démarche, on va plutôt proposer, là peut-être ça je ne sais pas trop comment ça se situe par rapport aux propos de Nathan, mais plutôt être dans une démarche de réserve plutôt que de planification urbaine. Et c'est toute la question compliquée du sujet, c'est qu'on va parler de la vacance, qui est un peu un ordinaire en déséquilibre, un déséquilibre de l'ordinaire, où il y a un trouble cognitif et sensoriel. Quel est-il? Comment on arrive à le capter, ce trouble-là? Et puis qui induirait en fait une sorte de trouble de l'expérience, un trouble matériel, esthétique, opérationnel. C'est un état de tension, John Dewey parle d'état de tension, qu'il s'agirait en fait de, dans l'expérience pragmatiste, on veut absolument supprimer cette tension. C'est le but de l'expérience. L'expérience part bien quand finalement il y a un déséquilibre, une tension, et qu'il faut la rétablir. Donc ça demande un effort. Dans le cas des espaces vacants, c'est un peu plus risqué, parce que l'effort qui serait fait, ce serait peut-être de, pour baisser cette tension, ça veut dire que ce serait des moyens mis en œuvre particuliers, par exemple, occuper systématiquement l'espace, détruire ces espaces-là, anonymiser ces espaces, donc les cacher, les murer, les remplacer ou construire. La construction qui provoque en fait encore plus de vacances, comme le disait Nathan. Nous, on va dire qu'il y a des mécanismes d'ajustement qui sont possibles, qui sont de nature multiple et qui demandent un effort continu d'adaptation sur le long terme. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir des mécanismes d'ajustement pour s'ajuster à cette tension, pas pour la résorber, donc peut-être que les lieux en situation sont utiles, donc plutôt pour faire avec la tension, cohabiter avec la tension plus que de la corriger. Donc c'est en ce sens-là que c'est plutôt un engagement existentiel, et ça, ça ouvre plein de questions du coup à aller plus ou moins, pas appliquer, mais en tout cas, depuis le terrain, comment sont vécues ces tensions-là, et finalement, comment ces tensions seraient bénéfiques pour notre expérience urbaine, et pas uniquement à résorber, à cacher et à détruire. Voilà.
Merci Axel.
Oui, bah moi je vois quand même plusieurs points communs, notamment sur le côté de l'affectation réciproque entre l'homme et son territoire, et du coup la définition d'un milieu, et également l'envie de déspectaculariser les ruines, si on veut finalement, enfin, ce que je crois comprendre, et ce qui moi m'a amené en fait à ne plus traiter non seulement de l'édifice désaffecté. Par exemple, je ne traite pas de l'ancien centre de traitement des déchets toxiques, mais je l'intègre dans le paysage. C'est-à-dire, du coup, ce n'est plus l'édifice désaffecté qui devient l'objet, mais c'est le paysage et moi-même dans ce paysage social à l'intérieur. Donc là, je pense qu'il y a des points communs en termes d'approche épistémologique. Et cette idée... On parlait de déconstruction, de la fascination. Alors, c'est vrai que moi, je pratiquais j'aime pas ce terme, mais ce qui a été appelé l'urbex. Et j'aime ça, de toute façon, c'est très facile. Il y a des lieux désaffectés partout, donc il suffit juste de dériver à l'échelle d'une île ou d'une région en vélo ou avec une 306, et puis tout va bien. Mais on en voit plein et on se retrouve dans des anciennes discothèques abandonnées. Mais du coup, je me disais, mais pourquoi quand même je suis fasciné à aller toujours vers des ruines contemporaines, à aller dans des colonies de vacances abandonnées, à me retrouver, à être content de me retrouver dans un entrepôt de robinets abandonnés, il y avait plein de robinets. Alors est-ce que j'ouvre un commerce de robinets? Non, finalement, c'était pas ça qui me venait, c'était plutôt l'image. Et même si j'essayais de trouver cela, de dire non, c'est une sorte, c'est comme Offenstadt, je vais voir, plutôt en tirer quelque chose, une lecture historique de l'espace, etc. Non, en vérité, je pense qu'il y avait quand même un rapport de fascination. Et dans quelle mesure ma propre fascination, en fait, n'était que le produit d'un cliché topique, mais spectaculaire, d'un conditionnement par l'industrie audiovisuelle dans tout ce qu'elle a d'omniprésente dans notre environnement. Et du coup, c'était cet état de tension, par contre, je le voyais comme le fruit de cette fascination. Je ne le vois pas comme un a priori. L'état de tension que je ressens au niveau dans une ruine contemporaine, et qui peut m'exalter et m'exciter, si on veut, pour moi, résulte, encore une fois, de mon conditionnement par les clichés topiques de l'industrie audiovisuelle, industrie audiovisuelle qui est notre paysage et qui a également un rapport d'affectation réciproque. Les legend telling et les legend tripping s'influencent en permanence, encore plus avec les nouvelles technologies d'informatique de communication et cette chose-là. Donc au niveau de l'imaginaire, c'est sur ça que je voulais répondre, mais du coup, oui, ça participe également d'une déconstruction de la fascination. Au niveau des matériaux, c'est à même le sol, et donc avec cette méthodologie impliquant trois types de sources, observation in situ, entretien oraux avec ceux qui se rappelleraient de l'évolution, un peu des passeurs de mémoire paysagère, et études archivistiques en prenant l'archive. Voilà. Mais sinon, oui, voilà. Et j'ai envie de lire John Dewey.
Merci pour vos rebonds. Peut-être ouvrir plus largement, alors, à la fois virtuellement et en présentiel, d'éventuelles questions, rebonds. On regarde les mains qui se lèvent aussi bien sur nous que dans.
Je commence, alors merci, hein, à vous deux, à vous quatre aussi, parce que on pourrait revenir sur vos deux premiers exposés. Non, j'avais deux questions d'ordre assez différent. La première, elle est, c'était d'inviter Axel à revenir sur cette question de approche métacotidienne. Tu disais que tu n'étais pas certain qu'il faudrait les appeler comme ça. Bon, enfin voilà, j'étais curieux en fait de comprendre d'où s'originait cette notion, cette proposition de notion. Et puis l'autre, peut-être avec une accroche sur le propos de Nathan, mais ça pourrait être sur d'autres, c'est que finalement, je trouve intéressant hein, cette discussion sur la fascination comme moment peut-être d'une recherche et comment on la dépasse. Et il me semble, Nathan, que revenant sur. Enfin, plaidant pour ce paradigme indiciaire, en fait, avec les trois méthodes combinées, que c'était une voie, c'était une éthique, en fait, possible, où peut se résoudre cette question de la tension évoquée par Élise en introduction entre tracé et critique. Et de la même manière, je dirais que je pousse peut-être un peu, mais quand Solal nous lit l'affaire du cabanon sur l'espace boisé classé, il y a quelque chose qui peut apparaître comme de l'ordre d'une fascination. Moi, souvent, dans des observations de réunion, je pense qu'il y a une fascination d'arriver à ça, à ce point-là. Et pour autant, derrière, on se dit, mais que fait-on de cet élément pour questionner ou critiquer la fabrique urbaine sans rester dans la fascination de celui qui, extérieur aux fabriciens, se dit, c'est incroyable, en fait, ce grain des choses et que les choses se jouent là, alors que pour les praticiens, c'est l'ordinaire, quoi. À tout ça pour ça, les chercheurs. Dans le pop sulin, on avait vécu des moments un peu durs, hein, où les gens nous disaient bah, très bien, écoutez, oui, vous racontez ce que nous vivons. C'est ça la recherche. Voilà, c'était pour vous rappeler ça. En tout cas, merci de vos interventions.
On fait plusieurs groupes de questions, je pense. Pour, donc, Nicolas.
Merci de vos interventions. Je vois deux thèmes, pour moi, qui m'intéressent bien dans ce que vous dites. Et alors, par des effets de recoupement que vous avez sans doute bien fait, le premier thème va aux deux premiers intervenants et le deuxième thème aux deux autres. Le premier, c'est ce couple que vous mettez en évidence entre gestion d'un côté et projet de l'autre. Hein, gestion des espaces d'un côté, projet dans l'espace de l'autre. En montrant que, ou en interrogeant, enfin, ou peut-être faut-il interroger qu'il y ait du projet dans la gestion et qu'il y ait de la gestion dans le projet. Et comment du coup dans vos deux objets ce changement-là, peut-être un paradigme hein, quand même, des deux côtés, peut-être entre vos objets permettent de l'interroger. Et puis alors pour Axel et pardon, ton prénom.
Nathan.
Et Nathan. Ce que j'ai trouvé d'assez commun dans vos deux approches, dans vos deux terrains et la façon dont vous en parlez, c'est une vieille question. De qu'est-ce qui hante les lieux ? Qu'est-ce qui les hante par leur passé ? Et qu'est-ce qui les hante dans leur futur, dont les éléments sont déjà là, en creux, quoi, entre guillemets, de leur devenir, pas toujours rigolo d'ailleurs, dans vos cas. Et voilà, et donc ce qui est une autre façon peut-être aussi d'aborder cette question vieille du patrimoine, de la vacance, mais considérer que les lieux sont littéralement hantés par leur passé au pluriel et les futurs que l'on y projette.
Merci. Bonjour, merci pour tous ces exposés. Il y a une question que je voulais soumettre, en fait, c'est le caractère immuable ou non de l'ordinaire, en fait. Au travers de certaines interventions, quand j'entends dire que dans le milieu de travail, Axel s'est entendu dire « Qu'est-ce que vous faites, vous, les chercheurs ?» ou « Vous ne faites rien ?» ou au travers de l'exemple du raisonnement dans l'organisme public, qui était peut-être une mairie sur la petite cabane au bord du bois et comment ça se passe, on a l'impression qu'on est dans des ordinaires qui sont complètement immuables de ce côté-là. Et au travers de l'exposé, le premier qui a été fait, excusez-moi, j'avais des prénoms, j'ai du mal à les voir par rapport à du coup, je prends des notes. Est-ce que ces travaux qui sont menés, et de par leur essence même, sont justement sur des ordinaires en mutation, quoi. Voilà, donc c'est là que j'aurais aimé que vous vous situiez sur le fait et ces ordinaires, s'ils sont immuables ou en mutation. Et j'avais une deuxième question qui est beaucoup plus, on va dire, côté technique. C'est le rapport des usagers aux objets, c'est-à-dire quel est le travail qui est fait par, dans le cadre de la thèse au travers de, justement les développements de vélos qui sont multiples actuellement. Est-ce qu'il y a des partenaires, des raisonnements qui sont menés sur quels sont les outils qu'on aimerait avoir justement pour ces mobilités en vélo? Le sens du mot vélo est tellement varié maintenant. Est-ce qu'il y a des raisonnements de ce côté-là? Pas uniquement sur l'aménagement, mais sur l'objet lui-même, gauche à gauche.
Alors, bon, on va peut-être déjà commencer par un retour sur ces trois séries de questions. Voilà. Je vous passe le micro. Je sais pas qui veut sur une des trois.
Ça va être très rapide à la limite.
Moi, je répondrai très rapidement en lisant de Stoke à la place de la métaphore du fantôme. Je préfère actuellement le paradigme indiciaire pour la même raison de la fascination au cliché topique. Bien évidemment, je vois la référence à l'anthologie avec un H qui serait né après 93, le spectre de Marx, de Derrida. Ah d'accord, ok.
Abby Warburg est d'ailleurs repris par...
Donc pas l'école culturelle américaine.
Ok. Non,
c'est bien la même. Ah d'accord, c'est pas... Ok, d'accord. Donc c'est pas le Spectral Turn de Madern à IDI.
C'est plutôt celui de Georges Duberman.
D'accord, que je ne connais pas. Clairement pas. Alors non, d'accord, voilà. Moi je pensais que c'était le Spectral Turn de IDI Madern, et en fait les études culturalistes qui disent s'inscrire dans la suite de Derrida. Et, mais reste que le caractère hanté, au moins le point commun dans l'anthologie avec un H finalement au début, que le fantôme agit comme une métaphore, hein, et d'ailleurs c'est une métaphore qui a complètement colonisé notre langage, hein, Wittgenstein disait toute une mythologie liée notamment à l'ésotérisme se dépose dans notre langage soi-disant moderne, blablabla, etc. Donc on n'arrête pas, on a le lieu fantôme, le village fantôme, le membre fantôme, le bruit fantôme... Et ça peut être très utile, et je vois à quel point l'anthologie peut avoir effectivement, dans un cadre conceptuel, un certain intérêt. Mais je me méfie, j'essaye par le paradigme indiciaire d'en limiter les effets néfastes qu'il pourrait avoir. C'est-à-dire que j'essaye d'en limiter les effets de fascination que la métaphore peut produire par un paradigme indiciaire plus matérialiste, en fait, si j'ose dire. Mais je prendrai les références en tout cas avec grand intérêt et je liais du coup les deux questions.
Ou peut-être Axel, on rebond sur cette approche métacotidienne. Je ne sais pas si tu...
c'est la question que j'avais branlée qu'on me pose, donc c'est super. Non, c'est qu'en fait, j'ai commencé à poser ce mot-là sans savoir vraiment si... Je pensais la question du au-delà de quelque chose, est-ce que c'était, quand on cherche la définition, c'est le changement, la succession, le fait d'aller au-delà, mais aussi à côté, au niveau de quelle technique on se situe finalement pour parler des pratiques. Qu'on y développe des approches, ça reste assez flou, est-ce que les pratiques qu'on développe dans ces lieux-là restent un peu en marge ou participent à faire vraiment entrer le lieu dans quelque chose d'ordinaire, complètement ordinaire, ou est-ce qu'on garde encore des traces, ça rejoint un peu les deux autres questions sur le côté immuable de l'ordinaire ou la question de qu'est-ce qui hante les lieux. Peut-être il pourrait y avoir des liens entre tout ça. Je pense que je vais le développer parce que du coup, c'est là où je ne sais pas tout à fait si on se situe dans l'ordinaire ou dans l'extraordinaire, du coup dans le quotidien ou dans le métacotidien. C'est pas forcément très clair pour l'instant. Et je voulais réagir par rapport à ce que Nathan avait dit tout à l'heure sur le côté tension qui est conditionné par l'état d'ennui qui est ressenti par un conditionnement plus qu'un a priori, et je suis assez d'accord avec ça. C'était l'idée que moi, ce que je disais, c'est que finalement, ce qui va limiter notre pouvoir d'action sur la vacance, c'est plus la représentation qu'on en a et qu'on en a fait, plutôt que peut-être plutôt que la réalité de ce que c'est. Donc effectivement, c'est un conditionnement, voir la vacance négativement, par exemple.
Peut-être terminer du coup juste sur ces deux questions, sur ordinaire en mutation, je pense que voilà, notamment adressé à Jean et Solal, voilà, avant de passer plutôt après à une autre phase de notre journée avec l'expérimentation. Ouais, je vous laisse Jean et Solal et du coup je pense que voilà, on vous voit.
Super, merci.
Bien, eh bien merci pour ces rebonds. Je trouve que ces deux remarques sont assez liées, en tout cas à titre personnel, hein, par rapport à ce terrain d'enquête-là, étant donné que ça fait écho justement à une tentative d'analyse de concepts qui ont déjà été bien documentés, bien écrits sur les questions urbanisme de projet, urbanisme négocié, etc., et de voir dans le courant, dans le quotidien, justement, de quelle manière est-ce que ça retombe, de quelle manière est-ce que ça s'applique. Et ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que, en effet, je me suis saisi de cet exemple de la cabane au fond du jardin, si je puis dire, parce que c'est une méthode que j'aimerais bien saisir, justement, qu'est en fait la jurisprudence ethnographique, qui a été identifiée par, pardon, Zotero me fait perdre les prénoms, du coup, mais par Dodier et Bazanguer, en 97, que je trouve assez intéressante dans l'idée de prendre quelques affaires de cette manière-là, pour un petit peu analyser de manière transversale ce qui peut se passer au niveau de ce niveau de l'instruction, au niveau de niveau zéro de l'action publique urbaine, ce guichet de l'urbanisme-là, et tout ce qui en découle derrière dans la petite opération. Et en fait, tout ça permet, alors on verra dans un an ou deux, hein, quand on sera un peu plus avancé dans cette montée en généralité-là, mais en tout cas de déconstruire ces labels, en fait, ces étiquettes qu'on pourrait mettre à différents niveaux de l'action publique urbaine, entre le grand projet va se passer de telle manière, et puis la petite opération, c'est du courant, c'est du binaire. On est justement dans la gestion, en fait, on est dans la gestion courante de la ville. Alors qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à ce niveau-là, atterrit le projet également, quoi. Enfin, projet dans le sens, on crée une affaire qui va autour de sujets spécifiques, que ce soit de la question des eaux pluviales, la végétalisation, la qualité architecturale, hein, parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout insisté là-dessus, mais c'est un volet énorme d'achoppement entre des cultures différentes et puis du rapport j'aime pas. Enfin, vraiment, je simplifie à outrance, mais des fois, c'est ce qu'on observe. Voilà, à travers tous ces volets-là, on va se retrouver dans des situations de mailles à partir pour redéfinir un projet d'une maison individuelle, d'un garage, d'un etc. etc. De tous ces différents niveaux-là. Et certes, si ça peut s'apparenter à une question de gestion, on arrive à un niveau de tension où le politique rentre en jeu, hein, l'élu, l'adjoint, assez suffisamment fort et suffisamment important. En tout cas, j'ai l'impression, et ça mériterait une discussion à part entière et une communication à part entière là-dessus, pour faire affaire, justement, pour faire conflit, pour créer suffisamment d'acteurs qui interviennent dedans, un architecte conseil de la collectivité, l'élu en charge, le directeur de service, un ou des instructeurs pour mettre en comparaison tout ça, la métropole, des avis extérieurs sur des questions de raccordement technique, et là, on renvoie tout à la question infrastructurelle, hein, de l'habiter. Tout ça va justement tendre vers, je trouve, cette sortie binaire. Justement, c'est un peu de changement de paradigme dans l'approche du quotidien de la fabrique urbaine. Et de l'émergence, peut-être réémergence, c'est pour ça que je mets ça comme ça, et j'aimerais que ce soit plus qu'une thèse, mais un programme de recherche, qu'on soit à 5 dessus, pour qu'il y ait un volet historique qui soit un petit peu analysé, hein, se dire, mais ok, l'instruction en 60, c'était quoi? Dans les années 80, c'était quoi? Pour un peu voir s'il y a vraiment évolution de figure, ou si c'est en fait assez linéaire. En tout cas, dans ce que ça raconte de la manière de faire la ville, j'ai l'impression qu'il y a rupture là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a rupture là-dessus et qu'on sort de ce schéma un petit peu, en effet, assez binaire. Et du coup, par rapport à l'ordinaire. Je trouve que la question se fait rebond aussi là-dessus. Quoi. J'insiste pas, je suis déjà trop long, désolé.
Pour rebondir du coup sur ce que disait Solal aussi par rapport au changement de paradigme et pour tenter de répondre à ce groupement de questions autour du projet dans la gestion d'un projet, la mutation de l'ordinaire et les rapports des usagers aux objets ou aux outils qu'ils ont pour discuter autour de la fabrique de la ville. Voilà, on est actuellement dans un changement de paradigme autour des mobilités. La place du tout automobile est à présent contestée pour diverses raisons. Cet objet vélo arrive à nouveau, puisque dans les années 50, il était encore bien présent jusqu'à une disparition totale par planification et monopolisation de l'espace pour l'automobile. Et donc, à nouveau, dans l'autre sens, on observe une mutation de cet ordinaire par, je dirais, deux notions, en tout cas, qui sont utilisées au niveau associatif. Il y a la notion, et même au niveau des collectivités, en fait, la notion de décalage en premier lieu. On voit bien que dans les centres urbains, aujourd'hui, la plupart des grandes villes françaises, le vélo fait son retour. On voit des aménagements qui sont plus ou moins qualitatifs. Et au-delà de ces aménagements, le système vélo, qui est le concept utilisé, notamment décrit par Frédéric Errand, mais aussi Eskenazi, Dulon, qui reprend les éléments de réseau qui évoluent, le véhicule, donc le vélo en lui-même qui évolue, qui prend diverses formes, des formes d'apprentissage aussi autour du vélo, que ce soit des vélos écoles pour les adultes, pour les enfants, dans différents lieux, dans les entreprises, dans le périscolaire. On a aussi des services qui se multiplient avec des stationnements très variés pour, en questionnant ces stationnements, la durée des stationnements, les infrastructures qu'il faut produire pour ces stationnements, que ce soit un stationnement très ponctuel, un stationnement dans l'espace public, où on va devoir laisser son vélo le temps d'aller faire un week-end à la gare. Enfin, voilà, il y a toutes ces notions de sécurisation. Et il y a la question aussi des règles du code de la route qui sont en pleine mutation. Où on observe des arrangements finalement de ce code de la route pour permettre à nouveau aux cyclistes de se déplacer de manière plus fluide, puisque c'est l'essence même du vélo, c'est cette liberté en fait, et parfois pouvoir s'affranchir de certaines règles, notamment les contraintes d'arrêt au feu rouge, font partie de cette défense, je dirais, la qualité de circulation du cycliste. Et donc ça arrive par des dispositifs comme les panonceaux M12, donc des petits panneaux qu'il y a au pied des feux rouges qui permettent de céder le passage sur ces intersections-là. Mais aussi, on voit ça à d'autres niveaux de l'aménagement, comme ce qu'on appelle les giratoires à la hollandaise, où c'est un anneau cyclable autour d'un anneau motorisé, où les cyclistes ont la priorité sur les entrées et les sorties de ce giratoire. Et donc cette mutation se joue au niveau de l'ordinaire des associations qui sont structurées en réseau grâce à la Fédération des usagers de la bicyclette au national et voire même avec des fédérations européennes, European Cycling Federation, où infusent ces pratiques, ces outils, ces notions que les associations au niveau local vont pouvoir réutiliser auprès des collectivités pour argumenter et demander de l'aménagement cohérent et surtout des politiques publiques qui ne visent pas seulement à développer de l'infrastructure cyclable, mais aussi développer plus loin que ça, donc ce dont je parlais, les éléments du système vélo, offrir du stationnement, offrir de la location moyenne longue durée, changer à la marge les règles du code de la route parce que ça se fait sur un temps très long, mais expérimenter pour permettre aux cyclistes de faciliter leur circulation avec les doubles sens, les remontées de sens unique à vélo, les doubles sens cyclables, les sas vélo aussi pour sécuriser les cyclistes. Et bien sûr, il y a aussi l'évolution de la machine même vélo qui devient aujourd'hui vélo cargo, qui devient VAE aussi, donc qui circule un peu plus vite, et qui demande une adaptation sans cesse des aménagements cyclables. Les aménagements cyclables qui étaient produits au début du plan vélo à Nantes, par exemple, en 2009 ou même avant, ne sont plus adaptés aujourd'hui à la circulation des vélos modernes, des vélos spéciaux. Et il y a tout un champ de recherche du véhicule intermédiaire, donc entre la voiture et le vélo, qui émerge et qui pose la question de qui seront les futurs usagers aussi de ces aménagements. Est-ce qu'on laisserait des vélos un peu plus larges, des vélos mobiles, voilà. Et ces véhicules intermédiaires, on voit aussi toutes les questions qu'ils posent avec la Citroën Ami, par exemple, la petite voiture électrique qui est appropriable par des collégiens maintenant, à partir de 14 ou 16 ans, qui circule à 45 km/h, et qui peut être utilisée, voilà, dans l'espace public avec un BSR. Ah bon, et qui vient créer encore de la tension autour de la circulation, le partage des espaces, le statut des espaces de circulation cyclable. Voilà. Et cette mutation qui se joue au sein des assos se joue aussi au sein des collectivités, comme je l'évoquais tout à l'heure. Là, on a la chance à Nantes Métropole d'avoir un service mobilité active acculturé déjà à la question du vélo, et leur rôle clairement est de venir acculturer leurs collègues d'autres services aux nécessités du vélo pour pouvoir circuler de manière efficace et en sécurité. Voilà, et en fait c'est par les mêmes outils, par cette notion de système vélo, qui est un peu ce point d'entrée de la question du vélo, et qui se joue au niveau des associatifs, au niveau des collectivités, aussi au niveau des organismes d'État comme l'ADEME ou comme le CEREMA. Voilà, donc il y a une sorte de point commun à ces entités qui échangent, qui co-construisent, et c'est cette théorisation autour de ce système vélo.
Merci. Solal, Jean, Nathalie, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, je pense qu'on va pouvoir peut-être...
Il y a une question dans le chat à laquelle je ne saurais répondre, mais je pense que Nicolas Tixier pourrait y répondre, sur la référence au lieu hanté, qui n'a pas été saisi par Paul, et donc savoir à qui faisais-tu référence, Nicolas, en citant, en parlant de lieu hanté. Enfin, je crois que c'était toi, Nicolas, d'ailleurs.
Georges-Didier Huberman.
Il demande si c'est Georges-Didier Huberman.
C'est bien cela.
Pas que.
C'est une façon de dire que les lieux sont chargés de choses, et que ces choses-là, elles ne sont pas que chargées par le passé, en fait. Elles sont chargées aussi par des potentiels ou des lectures à devenir. C'est le devenir de ce que l'on voit, des bidons, par exemple, des bidons, etc., ça charge le lieu autant, ça le hante. Ce devenir dont on ne sait pas ce qu'il peut être, ou qu'on craint. Donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est le mouvement à la fois vers le passé, et c'est comme ce moment présent, en fait, vient stratifier des choses plutôt du passé et des choses plutôt du futur. Donc c'est pas tant l'idée de la maison hantée, des choses comme ça, hein, c'est plutôt un terme qu'un peu utilisé par plutôt la sociologie de l'art aussi, hein. Oui, donc il y a Georges Duberman qui a beaucoup travaillé là-dessus, et une de ses références majeures, c'est Abby Warburg.
Merci Nicolas. En tout cas, Paul, j'espère que ça répond à ta question, du moins partiellement aussi.
Et peut-être avant de passer à l'expérimentation, merci Jean, Solal, Nathan et Axel pour cette table ronde. Merci encore.
Merci beaucoup, effectivement, c'était super chouette. Un peu dommage d'avoir été en format hybride.
Merci à tout le monde.